Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette dernière émission de l'année, direction le sud des États-Unis. Connaissez-vous Carson McCullers? C'est une jeune femme, écrit Edward Albee, qui, lorsqu'elle était jeune fille, a travaillé avec acharnement pour devenir pianiste de concert, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'une machine à écrire, touchée d'un doigt de magicienne, produisait des musiques plus sauvages et plus belles qu'aucun autre instrument. Elle est à la fois l'enfant et le sage, la douleur et la joie. Elle connaît tous les tours de cartes, ceux de l'art comme ceux de la vie, et décrypte avec une égale acuité les impostures de la réalité et ce qu'il y a de vrai dans les tours de l'illusionniste.
It happened that green and crazy summer when Frankie was 12 years old. It was a summer when for a long time she had not been a member. She belonged to no club and she was a member of nothing in the world.
Bonjour Marie-Claude Perrin-Chenour.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Aviez-vous déjà entendu la voix de Carson McCullers?
Oui, je l'avais entendue. Elle a son accent chantant du Sud, très marqué.
Qui, une fois qu'on entend sa voix, quand on la lit, on ne cesse d'entendre la voix des personnages à travers la sienne.
Elle a la voix, en fait, de Vivian Leigh, qui n'était pas du tout américaine, qui était britannique, mais qui joue le personnage de Blanche Dubois dans la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir. Elle a vraiment le même accent, c'est-à-dire un accent du Sud marqué mais cultivé.
Vous êtes professeur émérite de littérature américaine à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez publié un livre sur les romancières américaines, publié chez Ellipse en 1995. Un ouvrage de Complete Stories de Flannery O'Connor chez Armand Collin en 2004. Et vous êtes ici pour nous parler de cette romancière trop peu connue en France, Carson McCullers. Car lorsque j'ai proposé à l'équipe des Chemins de la Philosophie de parler chaque jour d'un ouvrage qui plaisait à l'un des collaborateurs, Maud Markiewicz, qui est en stage avec nous depuis plusieurs mois, a proposé de parler de Carson McCullers. Et Maud Markiewicz est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Maud.
Bonjour.
Alors pouvez-vous nous dire pourquoi ce choix, pourquoi cet auteur en particulier parmi tous ceux que vous avez lus durant vos études et au cours de votre vie?
Moi, ce qui me plaisait particulièrement chez Carson McCullers, c'était l'aspect solitude à plusieurs. Pas au sens habituel où chacun est seul au milieu de la foule, mais au sens où j'avais l'impression que le discours de chacun des personnages est, chez Carson McCullers, strictement solidaire de celui de tous les autres. On le voit bien dans Le cœur est un chasseur solitaire où l'existence même du discours de chacun dépend de ce silence du muet. Et ce qui me frappait, c'était l'espèce de pure puissance de ce silence du muet, à la fois au sens de la potentialité et du pouvoir. Comme s'il y avait une sorte de pouvoir de réinvention qui était recelé par ce silence-là, et qu'à son contact, les différents personnages pouvaient se réinventer et s'inventer un discours avec une sorte de dynamique constante de travestissement, de tentative d'être pour devenir un autre. Et voilà ce qui me paraissait original, au fond, chez Carson McCullers, c'est le fait qu'il n'y ait pas de clôture de l'intériorité sans en même temps cette espèce de mouvement de travestissement, cette solidarité, ce système des différents discours.
La solitude à plusieurs, c'est une bonne manière d'entrer dans l'œuvre de Carson McCullers, Marie-Claude Perrin-Chenour.
La solitude à plusieurs, c'est un thème assez marqué dans la littérature américaine. C'est un thème prégnant. Il marque beaucoup la littérature du 19e siècle américain en particulier. Et là, la solitude a deux acceptions ou deux façons d'être perçue. C'est soit la solitude... Alors, cette solitude, elle est d'abord marquée par des caractéristiques de la vie américaine. D'abord, la géographie et ensuite des aspects culturels. La géographie, c'est les grands espaces. Quand les premiers colons s'installent, c'est un espace quasi vide. Donc, il y a des grandes plaines, des déserts, des montagnes, etc. Et on peut être facilement seul. Et ensuite, il y a un phénomène culturel. Mais juste deux exemples de cette solitude dans la littérature du 19e siècle américain. Il y a Henry David Thoreau qui va s'installer dans les bois pendant 2 ans et qui veut simplement être là pour méditer face à la nature et contempler l'œuvre de Dieu. Et ensuite, il y a aussi, parce que les grands espaces, ça n'est pas seulement le désert, la montagne, les plaines, c'est aussi la mer. Il y a Herman Melville, la solitude sur les grands baleiniers, mais qui était aussi une façon de se poser des questions sur le plan métaphysique et moral. Donc c'est aussi une confrontation avec l'absolu, peut-être une transcendance. Et puis, ça nous amène à l'autre volet typiquement américain, c'est l'Amérique est peuplée au début par des colons qui sont des anciens, qui ont été rejetés en Europe par à cause de leur religion. Ce sont des protestants dans la version puritaine du protestantisme. Et pourquoi est-ce que cette version puritaine du protestantisme induit une forme de solitude? D'abord parce que le protestantisme ne connaît pas la confession, donc on est seul face à Dieu, on ne peut que lui adresser ses tourments. Et donc, et dans sa version puritaine, on insiste surtout sur la culpabilité et la faute. Donc, on est pétri d'angoisse et de tourments. Donc, il y a deux visions de la solitude. Une qui est positive, celle de Henry David Thoreau, par exemple.
Parce qu'elle est choisie.
Elle est choisie et elle est là pour glorifier la création. Donc, elle n'a que des choses positives à voir dans la nature. Et il y a au contraire celle très négative, enfin pas négative dans la mesure où il s'agit d'un rapport à Dieu, là encore, mais négative dans le sens où elle est un tourment permanent dans l'esprit humain.
Ça, c'est pour les héritiers, enfin plutôt ceux dont Carson McCullers hérite dans la littérature américaine, mais celle-ci se trouve au XXe siècle et elle devient connue en 1940 avec un ouvrage que vous avez cité, Maud. Le cœur est un chasseur solitaire qui met en scène deux personnages qui sont sourds-muets.
Oui. Alors juste pour revenir sur le fait qu'elle est très ancrée dans son époque aussi, c'est-à-dire elle est héritière de cette tradition américaine, c'est vrai. Mais elle est aussi très marquée par son époque. Son époque, c'est les années 40-50, donc c'est la guerre qui est en arrière-plan de la plupart de ses romans. Et là, elle se rapproche davantage de la littérature européenne, alors que la littérature américaine du 19e siècle était plus proche, par exemple, de la littérature russe que Carson McCullers a beaucoup lu, Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, Tchekhov. Mais en revanche, au XXe siècle, elle s'intéresse davantage à ce qui se fait en Europe. Et on le sait, la littérature européenne à ce moment-là, elle est marquée non seulement par la perte de la transcendance, Dieu est mort, il était déjà mort depuis un certain temps, sous les coups du marxisme athée, par exemple, enfin de certaines philosophies politiques. Mais là, il est mort aussi parce que la guerre a évidemment enlevé tout espoir de solution dans une transcendance. Mais pire, évidemment, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'on a cessé aussi d'avoir un quelconque espoir en l'homme. C'était la seule chose qui pouvait rester. Et là, on craint même que l'homme soit complètement dépassé par ses pulsions de mort. La création va peut-être n'aboutir qu'à de la destruction, et c'est la tension que présente Carson McCullers dans ses romans. Cette tension entre création et destruction, entre pulsion de vie, pulsion de mort.
Alors je vous propose d'écouter un texte du cœur est un chasseur solitaire pour entendre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, la plume, le ton, la voix de cet écrivain. C'est une voix qui fait une grande part à la musique. Il y a la musicalité de la langue elle-même, mais aussi la musique, les sons qu'entendent les personnages. En l'occurrence, au cours d'une fête qu'elle a organisée, Mick, c'est le personnage Mick, entend la 3e symphonie de Beethoven et c'est l'occasion pour elle de distinguer l'espace du dedans de l'espace du dehors.
Mick s'assit sur les marches, la tête sur les genoux, et rentra dans l'espace du dedans. Pour elle, il y avait deux espaces, l'espace du dedans et l'espace du dehors. L'école, la famille, les événements du quotidien s'inscrivaient dans l'espace du dehors. Monsieur Singer était dans les deux espaces. Les pays étrangers, les projets et la musique occupaient l'espace du dedans. Les chansons qu'elle imaginait, la symphonie. Quand elle était seule dans l'espace du dedans, la musique qu'elle avait entendue le soir de la fête lui revenait. Cette symphonie poussait lentement comme une grande fleur dans son esprit. Quelquefois pendant la journée, ou le matin à l'instant de son réveil, une nouvelle partie de la symphonie lui apparaissait brusquement. Il lui fallait alors s'isoler dans l'espace du dedans, l'écouter plusieurs fois et tenter de la refondre dans les passages qu'elle se rappelait. L'espace du dedans était un endroit très secret. Au milieu d'une maison pleine de monde, Mick pouvait y rester enfermé à double tour.
La troisième symphonie de Beethoven sur France Culture, les chemins de la philosophie après les guitares du sud des États-Unis pour évoquer l'œuvre de Carson McCullers aujourd'hui. Le texte que nous avons entendu est extrait de Cœur est un chasseur solitaire, publié en 1940, qui donc propulse l'écrivain sur la scène de la notoriété, toute relative, on y reviendra sans doute. Le texte a ceci de particulier que c'est par la musique que le personnage dont il est question ici, Mick, arrive à s'identifier dans le monde. On fait de la musique ce qui nous, à la fois ce qui nous conforte dans une forme d'intimité, mais aussi ce qui nous ouvre à une altérité, ce qui nous ouvre hors de nous-mêmes, et c'est exactement ce que vit Mick ici.
Oui. D'abord, on pourrait signaler que le personnage de Mick perçoit la solitude comme quelque chose de positif, puisque je parlais de ces deux volets tout à l'heure dans la littérature américaine. On a beaucoup comparé le personnage de Mick à celui de Frankie Adams dans le roman du même nom en français, parce qu'en anglais il a un autre titre. Le personnage de Frankie Adams, elle, subit la solitude, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais celui de Mick la recherche, et elle la recherche parce que c'est une solitude féconde, et c'est une solitude où elle peut déployer son imagination, c'est celle des projets et de la musique. Alors pourquoi la musique ? Peut-être parce que elle n'arrive pas suffisamment à s'exprimer par les mots. Et donc,
c'est la thématique de tout le roman. Revenons quand même là-dessus. Le roman s'ouvre avec des amis, John Singer et Spyros Antonopoulos, qui tous les deux sont deux sourds-muets qui vivent ensemble dans une ville du sud des États-Unis. L'un d'entre eux va tomber malade et va de ce fait résider dans une maison qui ressemble à un asile. Et l'autre personnage, Singer, va aller s'installer ailleurs. Et c'est là où il rencontre la jeune Mick Kelly, dont il devient le confident. Le sourd-muet, qui est le personnage principal, ne parle pas, mais recueille les confidences des autres. Et on se rend compte que finalement, les plus sourds et les plus muets ne sont pas forcément ceux que l'on croyait au début.
C'est très étrange, effectivement, comme situation, mais c'est assez emblématique. C'est-à-dire que ces personnages, et Mick n'est pas la seule à se confier à Singer, il y a au moins deux autres personnages qui, eux, parlent beaucoup, pour le coup. Jake Blount, qui est une sorte de, je dirais, anarcho-syndicaliste. C'est difficile de le classer parce qu'il a des idées qui s'apparentent au marxisme à certains moments, mais elles sont floues et souvent son esprit est embrumé par l'alcool.
C'est ça, il boit beaucoup aussi.
Très clair. Mais il parle énormément et il passe son temps à déverser sur Singer tout ce qu'il a dans l'esprit, et sans beaucoup de cohérence et sans chercher vraiment forcément à être compris. Et le docteur Copeland fait la même chose. Lui a un projet, peut-être on y reviendra, mais un projet plus précis. Mais c'est vrai que ces gens qui se confient à Singer n'ont pas besoin qu'il parle, ils n'ont pas besoin. En fait, ils sont en quête de communication, mais ils cherchent d'abord et avant tout un miroir, ils cherchent à être entendus ou à croire qu'ils sont entendus, ça leur suffit de penser qu'ils sont entendus. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Singer, qui ne communique pas, mais pourrait le faire par exemple par écrit, il le fait très très peu, et quand il écrit une fois sur une feuille de papier pour poser une question à Jake Blunt, c'est pour lui demander s'il est démocrate ou républicain, ce qui est une question complètement à côté de ce que lui raconte Jake Blunt, et ce que le personnage ignore complètement. complètement, parce que lui veut continuer à son discours. Il se parle à lui-même, en fait. Il ne parle pas à Singer. Mais il est l'auditeur idéal, puisqu'il ne le contredit pas non plus, jamais.
Maud Markiewicz, c'est ce qui vous a touché dans l'œuvre de Carson McCullers, ce que vous appeliez la solitude à plusieurs, cette difficulté de communiquer vraiment avec ce qui nous entoure?
Oui, c'est ça, l'unilatéralité, et puis... On a l'impression d'une sorte d'épuisement progressif du sens aussi, c'est-à-dire quand le discours des différents personnages atteint ou n'atteint pas Singer, qui lui-même tente de communiquer avec Antonopoulos, et là c'est l'insignifiance absolue, parce que vraiment Antonopoulos, on ne sait pas du tout ce qu'il comprend des gestes que fait Singer. Et donc il y a bien un terme qui est le silence, quoi.
Mais en même temps, ces deux personnes que sont le couple d'amis sourds-muets sont les deux qui communiquent vraiment. Certes, pas par le langage, mais ils communiquent davantage que les autres personnages entre eux.
Ah, ça, c'est aussi difficile à évaluer parce que on voit bien qu'on a la relation typique qu'on trouve dans tous les romans de Carson McCullers, une personne qui... projette sur une autre personne une affection, on ne sait pas si elle est d'ordre sentimental ou simplement amical, mais projette sur lui un sentiment, et finalement, sentiment qui n'est jamais payé de retour. Donc il n'y a pas véritablement de communication entre ces deux personnages. D'abord, Antonopoulos, l'autre sourd-muet, est... à moitié idiot, enfin il est retardé mentalement, il a une seule chose qui le motive dans la vie, c'est boire et manger, là aussi Singer n'a pas besoin véritablement d'avoir une communication ou une réponse à ces questions, il a besoin d'une présence, c'est tout. Il a besoin finalement de l'illusion de la communication, mais la plupart des gens vivent dans cette illusion.
Ce que Carson McCullers ne sait que trop bien, et quand elle appelle son livre « Le cœur est un chasseur solitaire », peut-être parle-t-elle de son propre cœur, c'est en tout cas ce que laisse penser une lettre qu'elle écrit à Janet Flanner, dont voici un extrait.
C'est le début de la soirée. Le ciel est d'un vert pur et profond. Et de l'autre côté de la rue, les lumières commencent juste à s'allumer. Quelque part, il y a un piano qui joue, et de cette distance, la musique a un son étouffé et fragile. J'ai dîné toute seule, une bonne soupe au fromage et Schubert sur le gramophone. De toute façon, cette journée a été une heureuse journée pour moi. Depuis que nous nous sommes vus, je n'ai pas été bien. Une sorte d'infection dans la gorge avec de la fièvre et des vomissements, ce qui m'a rendue très faible et très paresseuse. Mais par-dessus tout, le mal du pays. Pas spécialement la Géorgie, mais des endroits étranges et inaccessibles. Aujourd'hui, de nouveau, je me suis senti bien en me réveillant et j'ai un peu travaillé et j'ai longtemps vagabondé dans les rues. Je viens de regarder longtemps par la fenêtre et j'ai pensé à Rilke. Connaissez-vous les cahiers de Malte? Il y a un passage qui ne cesse de me hanter encore et encore tous ces derniers mois. Je ne sais pas écrire le français et je n'ai pas le livre avec moi, mais il dit à peu près ceci. Mécontent de tout et mécontent de moi-même, je voudrais bien me racheter dans le silence et la solitude. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi. Et vous, Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouveront à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. C'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je me répète encore et encore. Pour moi, cette continuelle remise en cause est la seule possible. J'ai fait du thé chaud, auquel j'ai mélangé du sherry chaud, moitié-moitié. On appelle ce vin Sherry Sonny Boy. J'ai beaucoup de chance avec les vins. J'ai pris, vous savez à quel point je bois, la fatale habitude de rouler ma langue, de plisser les yeux et de démêler les divers ingrédients d'une boisson. Sonny Boy est un mélange de sucre de sorgho, d'eau, avec... un soupçon d'urine et de l'alcool de bois. Je pourrais en jurer. Il faut du thé pour noyer ce goût-là.
cœur est un chasseur solitaire, c'est Carson McCullers qui le dit sur France Culture, les chemins de la philosophie. Carson McCullers qui, lorsqu'elle écrit à son amie, raconte ce qu'elle fait, non seulement décrit des breuvages assez bizarres, Marie-Claude Perrin-Chenot, un maître du thé dans un sherry qui a le goût d'urine, mais aussi reprend cette formule de Rilke magnifique et qui caractérise bien son œuvre. Il s'agit pour l'écrivain de se racheter dans le silence et la solitude.
Se racheter, c'est un terme assez fort et qui aurait presque une connotation religieuse, ce qui est surprenant parce que Carson McCullers n'était pas du tout pétri de religion. Elle n'avait pas été éduquée spécialement dans la religion. Et ces personnages sont plutôt athées, d'ailleurs, dans la plupart des romans. Mais je pense que ça a fait plutôt référence à une autre philosophie de l'époque, c'est l'existentialisme en fait. Elle est en train de chercher une façon de créer sa propre vie, de créer ses propres valeurs, de créer sa propre morale. Je pense que c'est plutôt ça qu'elle cherche dans la musique, dans les mots, créer sa vie, être sa fin et son aboutissement.
On entend pourtant quelque chose de très sombre dans la lettre qui vient d'être lue.
Oui, il y a quelque chose de très sombre, mais parce qu'elle n'est pas certaine d'y parvenir. C'est ça le désespoir d'une vie absurde, ou d'une vie qualifiée d'absurde. Parce qu'elle s'inscrit dans ce mouvement qui s'appelle le théâtre de l'absurde, qui a été très développé dans les années 50, et qui était représenté aux États-Unis par Edward Albee, d'ailleurs, qui a mis en scène son roman La balade du café triste. Donc elle partage ce pessimisme-là, mais elle ne pense pas qu'il ne faut pas créer, il ne faut pas pour autant essayer de se racheter de cette absurdité ou de ce manque de sens en posant des jalons et en posant des actes de création. Ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est que la musique est au fond en arrière-plan de l'écriture. Elle veut écrire, elle ne peut pas forcément, mais elle écoute de la musique. Et dans son œuvre, c'est ce qui se passe. La musique est toujours en arrière-plan et elle est là pour être une sorte de commentaire méta-littéraire sur ce que c'est que l'écriture. Il y a un passage très très beau à cet égard dans Frankie Adams où alors que les trois personnages du roman, c'est-à-dire Frankie, sa nourrice noire et son petit cousin qui a 6 ans, passent tout l'été dans une cuisine étouffante parce qu'il fait très chaud, alors qu'ils passent tout l'été là et qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils essayent de communiquer mais n'y parviennent pas, il y a un moment tout à coup de grâce, le deuxième jour du week-end au cours duquel se passe le roman, où finalement ils vont pousser plus loin leur discussion et tout à coup ils vont pouvoir communiquer. Ils vont pouvoir communiquer à travers quoi ? À travers une image que Frankie Adams a trouvée l'après-midi même, à la découverte en se promenant dans les rues. C'est tout à coup, comme elle le dit, au coin de son œil, il y a une explosion. Et cette explosion lui permet de voir une scène dans la ville, deux noirs en l'occurrence qui se tiennent par les épaules, et elle superpose à cette image celle de son frère et sa belle-sœur, le frère et la fiancée de son frère qui vont se marier. Les deux personnages qui vont, d'après elle, sauver sa vie parce qu'elle va les accompagner en voyage de noces, etc. Bon, ça c'est son délire du moment. Mais donc elle a eu cette vision et tout à coup cette image fait sens pour la nourrice. C'est-à-dire que la nourrice la comprend littéralement parce qu'elle a la même expérience. Elle voit, c'est aussi des choses curieuses, une explosion au coin de son regard, et elle, ça, chez elle, ça renvoie à son premier mariage et son premier mari avec qui elle était très heureuse, mais qu'elle a essayé de retrouver à travers d'autres mariages par la suite qui ont été des échecs. Et donc il y a ce moment où une sensation fait qu'ils se comprennent, elles se comprennent, les deux personnages se comprennent complètement. Et à la suite de ça, ils vont davantage explorer ce qu'ils pensent en essayant de cerner au plus près leurs idées par des mots les plus justes possibles. Et en arrière-plan de cette scène, il y a un accordeur de piano qui est dans le voisinage en train d'accorder un instrument et qui cherche, lui, la note la plus juste. Donc il va tapoter pendant très longtemps sur la même touche et ça va être très très agaçant. Et puis petit à petit, il va faire des gammes et jusqu'au moment où il va se déployer parce qu'il a enfin accordé l'instrument et donc il va pouvoir jouer un morceau. Et cette musique en arrière-plan accompagne la découverte des mots par les personnages. Le fait que, comme lui trouve la note juste, eux vont trouver le mot le plus juste possible pour exprimer leurs sentiments. Et ça se termine par un moment émotionnel très fort où ils se mettent tous à pleurer, ce qu'ils n'ont jamais fait ensemble. Ils chantaient ensemble avant et là, ils vont se serrer dans les bras les uns les autres et ils vont pleurer.
Donc c'est par la musique et par la sensation que la communauté peut se faire. L'isolement est moral, l'isolement est de l'ordre langagier, mais la sensation peut nous relier aux autres.
Oui, parce que il y a deux choses, il y a la musique et l'image en fait, les perceptions visuelles, puisque l'explosion au coin de l'œil, c'est d'abord une image. Donc il y a les peintures par exemple du petit garçon sur les murs de la cuisine qui sont aussi évocatrices, mais qui sont aussi en arrière-plan comme comme la musique. Et ce sont les terrains sur lesquels on va pouvoir essayer de construire quelque chose. Mais sans cette émotion là, le langage ne serait peut-être pas suffisant.
L'histoire de Frankie Adams est magnifique. Hein. Donc, c'est 1946, 6 ans après la publication de son premier roman, Le cœur est un chasseur solitaire. On est dans une petite ville de Géorgie et le roman raconte quelques jours du début du mois d'août de Frankie Adams, qui est un garçon manqué de l'âge de 12 ans et qui va être bouleversé par l'annonce du mariage de son frère, Janice, qui doit avoir lieu cet été-là. Et elle développe une sorte d'obsession, elle veut à tout prix faire partie du mariage. Janice va épouser donc celle qu'il aime et qui elle les aime elle-même à ce point qu'elle va vouloir changer son nom dans un nom qui commence lui aussi par un J. Elle va devenir F. Jasmine et puis elle va de nouveau changer de nom dans la troisième partie. Cette réflexion sur l'identité ne va pas sans une réflexion sur la difficulté de s'insérer en tant que sujet dans un groupe. On en revient à ce que vous disiez, Maud Markiewicz, en début d'émission, l'isolement à plusieurs. Mmh. Et cette formule qui revient beaucoup, c'est « ils sont mon propre nous ». Comment être un « je » dans un « nous ». Alors, écoutons le début de ce texte, lu par Carson McCullers elle-même, le passage du « we of me ».
I know that the bride and my brother are the we of me, so I'm going with them and joining with the wedding. This coming Sunday, when my brother and the bride leave this town, I'm going with them to Winter Hill, and after that to whatever place they will ever go. I love the two of them so much, and we belong to be together. I love the two of them so much. Because they are the we of me.
La veille encore et pendant les 12 années de sa vie, elle n'avait été que Frankie, rien de plus. Seulement quelqu'un qui disait « je » et qui allait seule et faisait des choses elle-même. Tout le monde pouvait se rattacher à un « nous », tout le monde, sauf elle. Quand Bérénice disait « nous », elle voulait parler de Honey, de sa vieille grand-maman, de sa maison, de son église. Pour son père, le « nous », c'était sa boutique. Tous ceux qui étaient inscrits à un club appartenaient à un « nous » et pouvaient en parler. Les soldats d'un régiment pouvaient dire « nous » et même les bagnards enchaînés les uns aux autres. Mais l'ancienne Frankie n'avait aucun « nous » auquel se rattacher, sinon celui qu'elle avait formé avec Bérénice et John Henry tout au long de ce terrible été-là, et c'était le dernier des « nous » qu'elle désirait au monde. Mais brusquement, tout était fini. Tout avait changé. Il y avait son frère et la fiancée de son frère, et à la seconde même où elle les avait vus, quelque chose s'était éveillé en elle, une soudaine révélation. Ils sont, tous deux, mon « nous » à moi. Et voilà pourquoi elle se sentait si bizarre. Ils étaient partis tous les deux pour Winter Hill, et elle était restée seule. C'était la coque vide de l'ancienne Frankie qui demeurait dans cette ville, abandonnée. The We of Me sur France Culture, les chemins de la philosophie. Alors, Marie-Claude Perrin-Chenour, ce que Carson McCullers décrit dans ce texte n'est pas simplement un isolement, une solitude dont vous disiez qu'elle avait hérité de ses ancêtres américains et écrivains qui décrivaient une solitude quasiment existentielle et propre à l'homme américain. Ici, c'est une solitude qui est très particulière et qui a ceci de spécifique qu'elle veut comme s'accrocher à deux autres personnes, en l'occurrence son frère et sa future belle-sœur, pour pouvoir exister. C'est une condition de survie.
Oui, c'est une condition de survie. Et si on peut revenir au personnage de Mick Kelly, elle est d'abord, elle est présentée dans un roman qui se déploie sur une plus longue période de temps. Et Mick Kelly, c'est Frankie Adams dans la première partie du roman Frankie Adams. C'est-à-dire, Frankie Adams se passe sur 3 jours, c'est un week-end, donc c'est une période très concentrée, une période de transition dans sa vie. On a dans la première partie, la petite Frankie Adams, qui est un garçon manqué comme Mick Kelly, qui vit ses rêves, qui a une foule de rêves et de possibilités qu'elle espère explorer plus tard dans sa vie. Comme Mick qui veut devenir chef d'orchestre ou compositrice, etc. C'est la période la plus intéressante du personnage. Les rêves de Mick Kelly vont être détruits à la fin du roman, c'est-à-dire parce que pour des raisons familiales particulières, elle va être obligée de travailler, donc elle va aller travailler dans un grand magasin. On sait qu'elle ne deviendra jamais une compositrice ou une chef d'orchestre. Mais en revanche, Frankie Adams, le roman, prend le personnage, le même personnage, à la fin, c'est-à-dire au moment où elle va basculer dans cette vie ordinaire, dans cette vie où elle va être récupérée par la société, où ses rêves vont être brisés, où elle ne va pas pouvoir déployer ses ailes comme elle l'espérait. Et elle le ressent, Frankie Adams, je veux dire, pendant tout l'été, elle sent qu'elle va être aspirée par la normalisation de la société qui l'entoure, et elle essaye de lutter contre.
C'est ça qui lui pèse.
À la fois, elle essaye de lutter contre, et à la fois, elle se rend compte qu'elle ne peut pas y échapper. Donc, tout à coup, elle n'est plus dans l'enfance, elle n'est pas encore une jeune fille, plus personne ne veut jouer avec elle, et elle est seule, vraiment, mais une solitude subie. Et donc, son idée, c'est de se raccrocher à la société. Et se raccrocher à la société, ça va être devenir une personne qui est vraiment intégrée, mais qui sera beaucoup plus banale que la Frankie, l'ancienne Frankie, comme elle dit, celle qui, elle, avait des rêves et qui imaginait que tout était possible. Ce qui est représenté, comme vous le disiez tout à l'heure, par son identité qui évolue au cours du roman, parce que dans la première partie, elle est Frankie, ce qui est un nom totalement androgyne, ça pourrait être un nom de garçon, comme Mick dans... Mick, on ne sait pas comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est un diminutif probablement, mais c'est un nom qui pourrait être un nom de garçon. Et elle a des rêves androgyne, enfin elle n'imagine pas d'obstacle au fait qu'elle pourrait faire des choses, voyager, et comme Mick n'imagine pas d'obstacle au fait qu'elle puisse devenir musicienne. Tout semble possible, mais au cours de l'été, Frankie a compris que non, tout n'allait pas être possible, donc il lui faut se raccrocher à quelque chose. Le deuxième jour, elle bascule dans l'extrême inverse, qui est qu'elle va, puisqu'il faut s'intégrer, et c'est l'été de sa puberté probablement aussi, il y a un thème sexuel sous-jacent à tout ça, elle va basculer dans l'hyperféminité. Donc elle va se choisir un prénom qui est un nom de fleur, Jasmine. Bon, certes, il ressemble au nom de son frère et de sa future belle-sœur, mais c'est d'abord le choix de la féminité. Elle s'achète une belle robe, des belles chaussures pour aller au mariage, etc. Elle se transforme physiquement et elle commence à ressembler aux stéréotypes de la jeune femme dans la société. Mais ça préfigure le fait qu'elle va abandonner la Frankie pleine d'imagination et de rêves qu'elle était avant. Et de fait, dans la troisième partie, elle va s'appeler Frances. C'est son nom à l'état civil. C'est un nom banal, courant. Et elle va devenir cette personne banale qui va se faire de nouveau des amis, etc. Et qui va croire qu'elle peut être intégrée dans l'école, dans son environnement. Et qui va tourner la page complètement avec de tout ce qu'elle avait espéré, voulu, rêvé auparavant. C'est triste, je disais ailleurs que c'était une tragédie. C'est une tragédie sont morts, mais c'est une tragédie de la mort des espoirs, des rêves.
Mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas tant la solitude qui lui pèse que la peur du conformisme. Vous dites, elle va devenir normale, ça l'effraie, comme si le danger numéro un était celui-ci. Oui. Vivre, s'intégrer à un nous, s'intégrer à la société, c'est aussi perdre sa singularité, devenir banale.
Absolument.
Cela, elle le fuit.
Oui, elle le fuit et elle le recherche, puisque le terme qui revient le plus souvent dans Frankie Adams, c'est la peur et la folie. La folie est quelque chose qui la guette et que la nourrice qui essaye de lui remettre les pieds sur la terre lui répète en permanence. Tu vas être folle, tu vas finir à Milledgeville. Milledgeville, c'était l'ancienne capitale de l'État de Géorgie où se trouve précisément l'asile psychiatrique. Alors tu vas finir soit dans le pénitencier, soit dans l'hôpital psychiatrique. Et le terme crazy revient sans arrêt et à la fin en particulier, vers la fin. Elle a peur de cette folie, elle a peur de sombrer dans la folie. Et pour ne pas sombrer dans la folie, finalement, il faut respecter des normes. Les normes sont des garde-fous. Alors elle ne les souhaite pas, ces normes. Sa vie, hein, comme je disais, était plus intéressante quand elle pouvait déployer sa liberté d'imagination totalement. Mais par peur d'être submergée par l'angoisse, parce que c'est ce qui lui arrive pendant l'été, elle a peur en permanence, elle va choisir cette normalité.
Mais cette difficulté d'affirmer sa propre identité, il y a une très belle discussion entre Frankie et sa nourrice Bérénice, hein, d'ailleurs, sur la prison du moi. Et Bérénice lui répond, mais attends, c'est pas toi qui as une prison du moi, c'est moi. Et donc, pourquoi demande-t-elle? Elle dit, parce que moi je suis noire, parce que moi je suis une femme de couleur. Tout le monde est prisonnier d'une façon ou d'une autre, mais nous, les gens de couleur, c'est des frontières supplémentaires qu'on a tracées autour de nous. Est-ce que la réflexion sur la difficulté de se construire une identité sans tomber dans la banalité du conformisme a quelque chose de particulier pour Carson McCullers en ce qui concerne les femmes et a fortiori la femme noire? Est-ce que c'est une réflexion proprement féminine ou pas forcément, selon vous?
C'est une discussion qui pose quand même la question du déterminisme d'abord. Nous sommes tous des prisonniers, c'est ce qu'elle dit, nous sommes prisonniers de notre moi, ça c'est la condition humaine, mais moi je suis doublement prisonnière parce que en plus je suis une femme noire. Carson McCullers a montré ailleurs, par exemple dans Le cœur est un chasseur solitaire, que les personnages pouvaient échapper à ce déterminisme. Par exemple, Dr. Copeland, dont on n'a pas parler encore, qui lui est devenu médecin.
Qui est un médecin qui s'occupe des personnes noires.
Alors, il est afro-américain et il s'occupe des noirs parce que la société sudiste est encore ségrégée. Il n'a pas le droit de s'occuper de patients blancs et il ne peut même pas entrer dans le café d'un autre des personnages qui s'appelle Biff Brannon. Lui rêve de promotion sociale par l'éducation, par le savoir. Et il est désespéré parce que... Et lui, il est complètement athée aussi, par parenthèse. Il est désespéré parce que ses enfants ne suivent pas la même voie. Et ses enfants ne suivent pas la même voie et ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas littéralement. C'est-à-dire, lui parle comme les Blancs, parce qu'il a un langage éduqué, alors que eux ne peuvent pas vraiment suivre la plupart de ses discours. Et il y a un fossé de plus en plus grand qui s'installe entre eux et qui va presque jusqu'au mépris de la part du docteur pour ses enfants, parce qu'il est désespéré, comme je disais, de voir qu'ils ne vont pas améliorer leurs conditions, alors que lui est une sorte de Christ laïque qui voudrait sauver son peuple, mais contre son gré. Et ça, c'est quelque chose qui préfigure la tension qu'on pourra voir s'exprimer dans les années 60, au moment de la lutte pour les droits civiques, où il y aura d'un côté les tenants d'une culture communautaire. Et c'est ce que disent les enfants du docteur Copeland. Tu ne parles pas comme nous. Nous, on a mais notre propre langage. Tu rejettes nos ancêtres. Tu rejettes notre culture. Et ensuite, en face, il y aura ceux qui seront accusés d'être des faux blancs, d'imiter les blancs, de singer les blancs, de parler comme eux ou d'essayer d'avoir le même type de vie que ceux qu'on appellera les les oncles Tom. Ce sera même un concept qui sera utilisé sous forme de substantif. L'oncle Tomisme sera quelque chose qui sera combattu dans les années 60. Et là, Carson McCullers l'avait déjà pressenti.
Entre Le cœur est un chasseur solitaire, 1940, et Frankie Adams, que nous venons d'évoquer, 1946, se trouve un livre qui s'appelle La balade du café triste, très joli nom, 1943. Peut-être pouvez-vous nous raconter l'intrigue en quelques mots avant qu'on entende un texte assez incroyable.
Dans La balade du café triste, on a un trio, comme il y en a dans la plupart des autres romans, comme c'est le cas dans Le cœur est un chasseur solitaire, mais aussi dans son deuxième roman, Reflet dans un œil d'or. Il y a des personnages qui s'intéressent à un personnage qui lui-même ne s'intéresse à un autre personnage, et ça crée une relation circulaire où personne ne se comprend et surtout... Mmh. Personne ne se regarde, parce que ça c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais le regard est très important chez Carson McCullers. C'est le titre de son deuxième roman, Reflet dans un œil d'or. Les gens se regardent, certains regardent d'autres personnages, le thème du voyeurisme est d'ailleurs présent dans ce deuxième roman, mais un personnage qui ne le regarde pas, ainsi de suite. Donc il va y avoir un drame, là aussi la balade du café triste est construite comme une tragédie. Et une tragédie qui va se terminer par l'élimination, la mort symbolique du personnage central, Miss Amelia, qui elle va devenir une recluse et disparaître. Et elle sera enfermée littéralement dans son, non seulement dans son moi, mais dans sa maison.
Et à la fin de ce texte se trouve un épilogue assez inattendu qui semble raconter une autre histoire et qui, étrangement, apporte un peu d'espoir. Voici ce texte, il s'appelle « Les 12 mortels ».
La route de Fork Falls est à 3 miles de la ville. C'est là que travaille le groupe enchaîné des bagnards. La route est goudronnée, le comté a pris la décision de combler les ornières et de l'élargir à un endroit dangereux. Le groupe se compose de 12 hommes. Ils portent le costume rayé noir et blanc des bagnards. Ils sont enchaînés aux chevilles, surveillés par un gardien armé d'un fusil. La réverbération est si forte que les yeux de ce gardien ne sont que 2 étroites lignes rouges. Le groupe travaille toute la journée. Un fourgon cellulaire l'amène à l'aube et le ramène dans le crépuscule gris du mois d'août. Toute la journée, c'est le bruit des pioches dans la terre glaise, le soleil implacable, l'odeur de transpiration. Et chaque jour, c'est la musique. Une voix sombre amorce une phrase, à peine modulée, comme une question qu'elle pose. Bientôt, une deuxième voix la rejoint, et peu à peu, le groupe entier se met à chanter. Voix sombre dans l'incendie doré du soleil, inextricablement fondue, musique déchirante et joyeuse à la fois. Et voici qu'elle prend de l'ampleur. Une ampleur si vaste qu'elle semble ne plus venir des 12 hommes, mais de la terre elle-même, ou de l'immensité du ciel. Musique qui force le cœur à s'ouvrir. Celui qui l'entend demeure figé de stupeur et d'émerveillement. Peu à peu, elle va s'éteindre. Il n'y aura plus qu'une voix solitaire, comme un long soupir enroué, et le soleil et le bruit des pioches, dans le silence. Quelle sorte de groupe peut ainsi donner souffle à une si belle musique? Simplement 12 mortels, 7 noirs et 5 blancs du comté. Simplement 12 mortels, enchaînés l'un à l'autre.
Quel texte, ces 12 mortels qu'on trouve donc à la fin de la balade du café triste de Carson McCullers. Maud Markevitch, vous qui parliez de cette importance de l'isolement et de la solitude qui vous touchait dans le travail de la romancière, ici on a comme une communauté, une petite communauté de 12 personnes qui, grâce à la musique, semble redonner un espoir à cette rencontre possible entre les individus.
Et puis il y a cette image de la chaîne, si on reprend l'idée de non-réciprocité structurelle, le fait qu'un va avec la chaîne tragique, le cercle tragique, un personnage en aime un, qui en aime un autre, qui en aime un autre, etc. C'était que les hommes sont liés en étant séparés, quoi. Cette espèce de rapport fort qui est de disjonction, mais qui en même temps existe donc à la manière de la chaîne des bagnards.
Marie-Claude Perrin-Chenour.
Oui, dans la tension entre création et destruction, l'espoir vient du fait qu'ici, c'est la création qui l'emporte. Mmh. Ils sont dans la situation la plus tragique qu'on puisse imaginer. Ils vont passer leur vie enchaînée. C'est une métaphore qu'utilisait déjà Bérénice dans Frankie Adams. Nous sommes tous des prisonniers, la nourrice. Nous sommes tous des prisonniers enchaînés les uns aux autres. C'est la condition humaine. C'était déjà métaphorisé pour Frankie par les papillons de nuit qui venaient se coller contre la vitre et qui venaient chercher leur mort, mais en même temps parce qu'ils cherchaient un moment de beauté. Mais là, c'est pas la mort qui l'emporte, c'est le moment de création de la beauté. Et c'est en ça que c'est assez fort, justement, parce que les personnages sont peut-être annihilés en tant qu'individus, mais ils sont transcendés par ce qu'ils sont capables de produire ensemble et en harmonie.
Il y a donc un espoir de communauté possible dans et par la musique, mais dans une petite collectivité et au sein de personnes qui sont des prisonniers. C'est quand même ça qui est intéressant, comme si finalement le fait d'être emprisonné était la condition d'une collectivité qui fonctionnerait.
Oui, parce que nous sommes, comme le dit Bérénice encore une fois, tous prisonniers de notre moi, donc nous n'échappons pas à notre condition, mais nous pouvons en faire quelque chose. On revient à cette idée existentialiste, nous pouvons en faire quelque chose de positif, nous pouvons créer un sens aux choses, même les plus noires, même les plus terribles. On peut en faire quelque chose de beau. Et ça, c'est quand même magnifique, parce que c'est ce que fait Carson McCullers au cours de son œuvre.
Jusqu'à un certain point, car après avoir publié Le cœur est un chasseur solitaire, Reflet dans un œil d'or, La balade du café triste et Frankie Adams, il y a comme un silence qui s'installe. Enfin, un silence s'installe jusqu'en 1961, son dernier roman.
Un silence parce qu'elle est rongée par la maladie, il y a des raisons à ça, mais elle est aussi désespérée parce que tout ce qu'elle raconte dans ses romans, c'est quelque chose dont elle fait l'expérience. Elle a une relation difficile avec son mari qu'elle a épousé deux fois et qui lui est un écrivain raté, enfin qui rêve d'être écrivain mais qui ne le sera jamais et qui est torturé par cette idée, donc il devient alcoolique et il finit par se suicider. Donc ça, c'est quelque chose dont elle ne s'est jamais remise complètement. Donc il y a eu cette période de creux dans son travail, sans doute due à toutes ses raisons personnelles. Et pourtant, elle a connu un succès phénoménal.
Aux États-Unis.
Parce que en particulier, Frankie Adams a été adapté au théâtre et a eu énormément de succès, ainsi que La balade du café triste d'ailleurs, qui a été adaptée par Edouard Albee. Elle a eu beaucoup de succès, elle était un personnage reconnu, mais dans sa vie personnelle, le succès était moins au rendez-vous. Comme vous dites, elle était très connue aux États-Unis, moins en France. Mais c'est toujours mystérieux pour moi de savoir pourquoi des écrivains américains sont connus en France.
Mais c'est vrai,
ou pas.
Parce que vous avez beaucoup travaillé, en tout cas sur les romancières américaines. Est-ce que vous arrivez à savoir pour quelles raisons? Enfin, vous venez de dire non, mais certaines romancières sont beaucoup plus connues que d'autres. Vous avez travaillé sur Flannery O'Connor, qui, me semble-t-il, est davantage connue en France, en tout cas, que Carson McCullers. C'est pas parce que la qualité du roman serait meilleure.
Flannery O'Connor, je crois que les Français sont très auto-centrés et donc en fait ils s'intéressent aux Américains quand ils peuvent retrouver quelque chose d'eux-mêmes dans ce qui est écrit ailleurs. Flannery O'Connor est catholique, elle a des références françaises, Teilhard de Chardin, etc. Donc en fait les catholiques français se sont intéressés à elle et puis donc les Français se sont intéressés à elle. Faulkner a été découvert par un écrivain français, etc. Donc beaucoup d'écrivains américains ont des résonances dans la culture française que parce que les Français peuvent y projeter quelque chose d'eux-mêmes aussi. Il y a des écrivains de la Louisiane aussi qui sont connus, qui ont été redécouverts parce qu'ils écrivaient en français ou ils ont été par exemple Kate Chopin, juste pour leur citer un exemple, qui a été découverte par un professeur de littérature américaine de mon université et qui n'était plus connue aux États-Unis et qui maintenant est une des romancières américaines les plus publiées.
Est-ce que Carson McCullers reste très connue aux États-Unis.
Ah oui, elle reste très connue aux États-Unis. Donc, elle a été très critiquée hein, à l'époque où elle a publié, parce que elle écrit quand même sur l'homosexualité. Alors, d'un côté, on voyait en elle un écrivain prodige. Elle était très jeune quand elle a publié son premier roman. Donc ça lui valait un certain coefficient de sympathie. Mais elle écrivait aussi sur des sujets qui n'étaient pas très bienvenus, surtout dans les années 50, qui sont des années quand même très conservatrices aux États-Unis.
Il nous reste à souhaiter que Carson McCullers et ses textes deviennent davantage connus en France. Vous l'avez enseigné, j'imagine, au cours de votre carrière de professeur, Marie-Claude Perrin-Chenour. Il vous reste à la lire, chers auditeurs, sur les conseils de Maud Markevitch, notamment, qui avait proposé cet auteur pour cette dernière série de l'année des Chemins de la philosophie, où nous vous conseillons des lectures pour cet été. Je vous conseille, par exemple, de vous procurer les romans et nouvelles de Carson McCullers qu'on trouve au livre de poche dans la Pochothèque.
Of all life, all I hate about line and track, these old balls about to break my back.
Well, who boy can't you line up,
rattle, rattle?
Who boy can't you line up,
rattle, rattle?
Who boy can't you line up,
rattle, rattle?
See how we go line and track.
Moses stood on the Red Sea shore, smoting out of water with a 2x4.
Well, a hoe boy, can't you line up?
Rattle, rattle.
Hoe boy, can't you line up?
Rattle, rattle.
Hoe boy, can't you line up?
Rattle, rattle.
See how Louise go line and track.
Oh, boy, did you ride? Mary and the babies lying in the shade, thinking about the money that I ain't made.
Well, a hoe boy, can't you line up?
Rattle, rattle.
A hoe boy, can't you line up?
Rattle, rattle.
A hoe boy, can't you line up?
Le chant des prisonniers enchaînés, comme vous l'avez remarqué, Marie-Claude Perrin-Chenour, qui venait illustrer le dernier texte que nous avons entendu, l'épilogue de la ballade du Café Triste. Un grand merci à vous d'être venu nous parler des auteurs aujourd'hui.
Merci à vous.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosnay-Savoie pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
C'est votre dernière chronique, votre valise est faite, vous êtes déjà en maillot de bain et vous avez encore un conseil à nous donner dans votre sélection vacances.
Ouais, ma sélection vacances, je rappelle le principe, une activité estivale, un livre. Après donc photographier, pédaler, bronzer, s'angoisser. Bien pour le dernier journal de l'année, j'ai choisi partir. Alors j'aurais peut-être dû commencer par là, car partir est une des premières choses que l'on envisage pour nos vacances. Mais partir, ça veut dire quoi? Où partir? Et d'où? Et comment? Faut-il vraiment partir pour partir? Et peut-on vraiment partir en partant?
Je veux dire un mot du tourisme, qui doit être érigé en grande cause nationale, ce qui suppose un certain nombre d'efforts. Améliorer l'accueil, ça commence dans les aéroports. Assurer la sécurité dès les premiers pas dans le pays. Améliorer le niveau des équipements, des prestations. La France est fière, et nous le rappelons suffisamment, d'être la première destination touristique du monde. Mais il se trouve que nous ne sommes pas le premier sol touristique, y compris en Europe. Eh bien, nous devons nous fixer cet objectif.
En août 2013, dans un discours prononcé lors de la conférence des ambassadeurs, François Hollande faisait du tourisme une cause nationale. Et faire du tourisme peut justement être une des formes du départ, du fait de partir. En effet, partir, c'est un terme et une activité plastique qui renvoie à tout un champ lexical pas forcément identique. Voyager, s'évader, explorer et donc aussi faire du tourisme. Pourtant, faire du tourisme avec son écho à toute une machine économique bien huilée semble à l'opposé des errances d'un départ, du dépaysement ou de la simple retraite en terre familière. C'est bien ce qu'avait en tête François Hollande en parlant de tourisme d'ailleurs. Il était loin de l'idée de partir, de tout exotisme ou de tout repos. Il nous parlait au contraire d'industrie touristique, active, sûre et rentable. Alors comment en est-on venu à identifier partir et faire du tourisme? Comment François Hollande en est-il venu à nous révéler l'un des paradoxes des vacances? Quand on part, pensant tout quitter, eh bien on reste en fait toujours dans une grosse machine.
Pourquoi venez-vous au club?
C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Mmh. Et puis, de très bons amis à nous, ils sont allés, on s'est venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas.
Viens nous voir à Galasmina, va dire la nana, y'a du soleil et des nanas.
Bienvenue au club, je suis Marcus, le chef de village. Je m'occupe de vos petits problèmes, de vos petits soucis, afin que vous vous sentiez complètement en vacances.
Ici, on a surtout un cri de guerre, hein. Bip bip bé. Alors vous voyez, on se barre, quoi.
On dit que le club, c'est la mort du couple, alors comme je suis célibataire...
Les clubs de vacances incarnent peut-être la quintessence de ce paradoxe des vacances. Partir quelque part en pensant tout quitter, voyager, explorer, découvrir, se dépayser et pourtant rester dans les clous, dans la norme, ferme comme tout le monde. Avec cette question, partir serait-il donc devenu impossible? Eh bien, dans un livre qui vient de paraître aux éditions du CNRS, du voyage rêvé au tourisme de masse, les deux auteurs, Thomas Dôme et Eudes Girard, font d'une certaine manière ce constat. De l'accès aux lieux, aux souvenirs, en passant par les visites, les rencontres, le logement ou la restauration, sortir des circuits fermés du tourisme semble un défi. Comble, vouloir en sortir serait aussi devenu une industrie. Du désir si banal de l'exploration authentique au récit soi-disant singulier du carnet de voyage partagé sur Internet. Alors comment faire? Comment partir? Si partir, c'est-à-dire tout quitter, est devenu impossible, faut-il encore partir ou faut-il en tout cas encore partir quelque part pour avoir l'impression de partir?
Robinson Crusoe, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous sommes tous Robinson Crusoe, parce que c'est l'homme de la solitude, l'homme de la solitude sur une île déserte. Et je crois que chacun se sent plus ou moins sur une île déserte, même dans un HLM. C'est pourquoi je crois que chacun doit écrire Robinson Crusoe, chacun doit écrire son Robinson Crusoe. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Être un Robinson Crusoe est l'un des clichés du voyage et le rêve de la solitude insulaire est désormais un mythe touristique. Mais c'est peut-être que l'on pense trop en termes de géographie. Où pars-tu pour les vacances appelle souvent une réponse en forme de destination. Je pars à la mer, je pars au Japon, je pars dans ma famille. Alors qu'on pourrait tenter d'y entendre un départ, une invention, un mouvement sous forme de renouvellement de soi, car on dit aussi bien partir pour tout quitter que pour redémarrer.
Eh bien voilà ce qu'il vous reste à faire. Glissez ce livre dans votre valise et partir très vite et très loin.
Donc avec ce livre qui est « Du voyage rêvé au tourisme de masse » de Thomas Dôme et Eudes Girard qui est paru aux éditions du CNRS.
Merci Géraldine, bonnes vacances à vous.
Bonnes vacances à vous
et
aussi.
On se retrouve fin août.
Oui, avec grand plaisir.
À l'issue de cette dernière émission de La Grille, je tiens à remercier et à exprimer toute ma gratitude envers les membres de l'équipe des Chemins qui m'ont accompagné cette année. Pauline Vermeuren, Claire Perryman-Holt, Louis Servet, Maud Markiewicz, Marianne Chassor, fidèle au chemin depuis 2012 et que vous ne retrouverez pas à la rentrée, qui va beaucoup nous manquer, mais à qui je souhaite le plus de bonheur possible pour la suite de l'aventure. David Pargamin aussi qui partira pour d'autres horizons. Olivier Bétard qui travaillera désormais aux côtés de Nicolas Martin dans la méthode scientifique et qui va aussi beaucoup nous manquer. Mais aussi ceux qui restent, Nicolas Berger, que vous retrouverez dès la rentrée le 27 août, et Géraldine Mosna-Savoie, fidèle au poste et au micro, pour notre plus grande joie. À vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous souhaite le meilleur, les plus belles des vacances, et je vous donne rendez-vous le lundi 27 août pour une nouvelle saison des Chemins. Nous avons l'été pour vous proposer le meilleur dès la rentrée. La grille d'été sera l'occasion de vous faire redécouvrir quelques émissions diffusées cette année. Dès lundi prochain, nous vous proposons d'écouter une série d'émissions sur la fatigue, diffusée, vous vous souvenez peut-être, en décembre 2017. Je vous donne rendez-vous le lundi 27 août avec impatience et d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.